qué fiebre hay.
Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 290, émission musicale à géométrie variable sur la musique et ses histoires. Diffusion radiophonique dans la Drôme sur RDWA et Radio Saint-Ferréol, en Isère sur Radio Dragon et en Ariège sur Radio Transparence. Les podcasts disponibles comme d'hab sur le site internet de RDWA. Cette semaine, deuxième volet du cycle d'émissions intitulé Musique et politique après l'histoire du Front National en musique la semaine dernière. On continue avec un thème cher à tous nos réactionnaires de droite, à savoir l'identité nationale et l'immigration. La grandeur de la France et son identité seraient souillées par les dernières vagues d'immigration. C'est le problème numéro un pour beaucoup d'intellectuels, de politiques, de journalistes de droite. C'est le fameux péril musulman, le grand remplacement, la culture, l'identité française, comme si elle était figée dans le marbre, est en danger. Il va être question de ça pendant une heure. Vous allez entendre des extraits de reportages, d'interviews et des musiques qui résonnent à ce thème de l'immigration et de la peur de l'étranger. La première vague d'immigration moderne qu'a connue la France se déroule entre 1850 et 1900, avec l'arrivée des Belges, de Polonais, d'Espagnols, de Suisses et d'Italiens. La société française connaît alors ses premiers élans nationalistes avec l'affaire Dreyfus et le développement des ligues d'extrême droite telles que la Ligue de la Patrie française ou la Ligue des Patriotes dont on a parlé la semaine dernière. Premier extrait documentaire du jour, petite histoire de l'immigration italienne qui correspond à cette première vague d'immigration. Récit signé Pierre Milza, historien spécialiste de l'histoire du fascisme et de l'Italie des 19e et 20e siècles. On écoutera ensuite Massilia Sound System, Marché du Soleil. C'est parti pour cette émission. À toutes.
Chemin. Il faut d'abord voir que cette première immigration italienne, c'est essentiellement une immigration de gens venus du Nord, qui émigrent depuis très longtemps et qui évidemment arrive plus massivement à partir de 1890. Beaucoup d'entre eux, ils viennent d'Émilie, ils viennent surtout du Piémont, ils viennent à pied, traversent les Alpes, parfois en plein hiver, quelques-uns restent en route. Ensuite, ils remontent le long de la vallée du Rhône, de la Saône, jusqu'en région parisienne, à pied quelques-uns, mais beaucoup aussi par chemin de fer. D'ailleurs, ils s'emploient au fur et à mesure de leur montée vers Paris. C'est-à-dire qu'ils vont bien souvent sur la ligne du PLM, de chantier en chantier, jusqu'à la région parisienne, où ils se fixent à partir de 80-90, de manière encore très, très lâche. Ils sont peu nombreux. Il y a une autre immigration qui vient de plus loin, qui vient du sud. Ce sont des immigrations, une immigration de jeunes, d'enfants, d'adolescents. Cela vient du Napolitain, de Basilicate. Ils s'embarquent à Naples, ils arrivent à Marseille et de là, ils remontent vers Paris. Ils sont souvent très maltraités, recrutés par des espèces de ce qu'on appelle les capimaestres, des sergents recruteurs, qui viennent en quelque sorte les acheter à leur famille, par petits groupes de 10 ou 12. Ils remontent jusqu'à Naples ou jusqu'à Gênes, de là ils s'embarquent pour Marseille. Les filles, quelquefois, vont grossir les rangs de la prostitution marseillaise. Les garçons sont acheminés vers Paris. On va les employer soit dans les verreries, soit dans des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, vendeurs de statuettes d'albâtre, montreurs d'animaux, où beaucoup d'entre eux sont également très maltraités et ne reviendront pas, bien souvent, de ce périple en terre de France et en Île-de-France.
L'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants. Des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois
Méditerranée. Tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées.
Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Et de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer. On y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger. On y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
En 1911, les Italiens deviennent le premier groupe d'immigrants en France, dépassant les Belges. Les Italiens constituent alors 36% des immigrants en France et 1% de la population totale. À partir de 1914, et ce jusqu'en 1939, on parle de la deuxième vague migratoire avec l'arrivée des Arméniens. À partir de 1915, des populations venant des colonies françaises, Indochine, Maghreb, Afrique noire, puis des Espagnols fuyant la guerre. Civil à partir de 1938, de 1945 à 1980, c'est la troisième vague d'immigration, une immigration économique qui a été favorisée par le Conseil national de la résistance favorable à l'avenue des étrangers pour reconstruire le pays, et l'opinion publique s'estimait redevable de tous ceux qui avaient participé à la libération de la France. La France accueille aussi les ressortissants des pays qui subissent la dictature ou la pauvreté, voire les deux comme ce fut le cas. Pour les Portugais, l'immigration portugaise devient massive à partir de 1957 et ce jusque dans les années 75. En 17 ans, les Portugais en France passent de 20 000 à 750 000 en 1975. Ils fuyaient les conditions de vie misérables, la dictature de Salazar et le service militaire pour aller faire la guerre en Angola. Archivina, pour continuer l'histoire du jour, un extrait télévisé datant de 1969 sur l'immigration portugaise où beaucoup se sont installés à leur venue dans le bidon ville de Nanterre. C'est parti.
Qu'est-ce que c'est cette photo?
C'est la photo de mes enfants et de ma femme.
Vous êtes en France depuis combien de temps?
Je suis arrivé le 2 de ce mois.
Et vous aviez un passeport ou non?
Je n'avais pas de passeport. Je suis venu sans passeport. Je ne pouvais pas rester au Portugal parce que je n'arrivais pas à gagner assez pour élever mes enfants. Et j'ai tenté le tout pour le tout pour traverser la frontière. Et je suis arrivé en France le 6. Depuis ce jour, jusqu'à maintenant, je ne suis pas arrivé à trouver du travail. Quelques-uns obtiennent des passeports, ils les obtiennent avec de l'argent. D'autres ont des contrats de travail, mais la grande majorité vient clandestinement.
Et vous êtes venu directement au bidonville, pourquoi? Vous connaissez déjà quelqu'un ici?
J'ai ici un cousin. Je suis venu voir si je le trouvais et je l'ai trouvé. Mais malgré ça, c'est très difficile de trouver du travail. Parce que j'ai demandé dans beaucoup d'usines et ils ne donnent pas du travail sans que j'ai les papiers. Je gagnais tout juste à manger. La vie là-bas est très chère. Alors je suis venu clandestinement ici. Je suis venu par la montagne. J'ai dû payer 1300 francs en argent portugais. Je suis ici depuis presque 2 ans. Ici au moins, je peux mettre un peu d'argent de côté.
Et au Portugal, vous avez déjà fait le service militaire?
Oui, j'ai fait 21 mois au Portugal, dans la métropole, et 27 mois en Angola.
Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre d'Angola?
C'est la guerre des capitalistes, parce que la guerre est seulement pour les officiers et les capitalistes. Un officier gagne là-bas entre 1300 et 1800 francs. Alors qu'aux soldats, on ne leur donne même pas à manger.
Et vous pensez que le Portugal a besoin des colonies pour vivre?
Bien sûr. On en a besoin. Si on n'en avait pas besoin, on ne voudrait pas les garder.
Et pourquoi?
Parce que l'Angola, le Mozambique et toutes ces colonies sont des pays beaucoup plus riches que le Portugal. Le Portugal est seulement un pays de luxe. Il est seulement un pays de capitalistes, de luxe et de rien d'autre.
Donc, pour vous, le Portugal a besoin des colonies?
Ça manquerait beaucoup au Portugal. Si tout ça n'existe plus, le Portugal, c'est une misère.
Alors, pour vous, est-ce qu'on doit continuer la guerre ou non?
Il faut qu'il continue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Non, ça ne sert à rien qu'à tuer des milliers de jeunes qui meurent et qui tuent.
Est-ce que vous avez de bons rapports de travail avec vos camarades français?
Oui, ça c'est un...
Est-ce que vous avez des amis français?
Oui, ça c'est un problème, oui, j'ai des amis, ça je ne peux pas dire le contraire. Mais il y a aussi des Français qui ne comprennent pas les notre problème, ça c'est sûr. Même Chernot, il a des compas qu'on parle devant nous, assurés, bien, mais derrière, il parle un petit peu contre nous. Parce que moi, je suis par contre les ouvriers qui parlent comme ça, mais parce qu'ils sont... On ne comprend pas bien notre problème. Nous venons ici parce qu'on a des misères chez nous. Nous sommes obligés à venir ici en France pour manger. Il faut le comprendre ça. S'il y a quelques problèmes à poser, c'est par nous, je crois. C'est par nous, les immigrés. Nous sommes des travailleurs comme les Français. Nous sommes des exploités comme les Français. Il faut peut-être parler, je ne sais pas à qui, mais pas à nous.
J'ai refusé de faire mon service militaire. Pas au Portugal, mais dans les colonies. Quoi. Ça ne m'intéresse pas de faire la guerre. Quoi. Les guerres qu'il y en a dans trois colonies.
Et vous?
Moi aussi.
J'ai refusé à faire le service militaire au Portugal. Quoi. Qu'est-ce que je vais défendre? Je vais défendre les riches. Ça ne m'intéresse pas. Quoi.
Et les jeunes qui ont refusé qui ont fait le refus d'incorporation, qui sont venus en France, il y en a beaucoup chez Renaud?
Oui, pas mal.
Il y en a pas mal, on peut les chiffrer?
Toutes les jeunes, quoi. Ceux qui ont 21, quoi.
Est-ce que vous pouvez retourner librement au Portugal?
Ah non. Non, pas. Enfin, on peut retourner au Portugal, bien sûr, mais...
Et clandestinement, quoi.
Si on arrive là-bas, on se fera ramasser, quoi.
Et qu'est-ce qui vous attend si vous faites ramasser? Est-ce que vous le savez?
Peut-être on va... Peut-être, non, c'est vrai. On va en prison ou alors on sera obligé de faire le service militaire. On sera forcé de faire le service militaire.
Combien d'années de service militaire fait-on aujourd'hui?
4 ans.
4 ans et demi.
Ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. نهني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش أصل أمور التمسلتيش كل ناس ذلي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس Vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. قال الخدمة يوارن ذي مقريت تقابلن يرناس السوم رخيصن وقرنا استياد لاشانس ميت سعيد لاريزيدانس موسيقى
des conversations, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence.
L'immigration portugaise, espagnole, européenne, chrétienne ne pose pas vraiment de problème à la nouvelle droite réactionnaire, chrétienne et conservatrice. Pour eux, ces gens-là n'ont pas mis en péril la culture française, ils étaient facilement assimilables avec les Algériens, Marocains et autres ressortissants basanés du tiers-monde venus après la guerre. Par contre, c'est pas la même religion, pas la même culture, une langue qui ne possède aucune racine latine. Quand bien même les mecs faisaient tout pour être assimilés, le chemin a été long pour être toléré dans le paysage. Les mentalités changent très lentement, mais on voit quand même qu'on a parcouru un peu de chemin. Quand on écoute ce nouvel extrait télévisé, on demande à des jeunes filles ce qu'elles pensent des Maghrébins. Les Italiens, les Portugais, ça va, mais par contre les Algériens, c'est pas trop ça. On doit être vers la fin des années 70 ou début 80. Archive.
J'habite Pont-sur-Ruy. Je m'appelle Noël, j'ai 17 ans, j'habite chez Vanouille. Je m'appelle Annie, j'ai 18 ans, j'habite Pont-sur-Ruy.
Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ici il y ait tant de races mélangées et d'ethnies différentes, Noël?
C'est comme ça, hein, pas une terre. Enfin, des fois, le samedi soir, on n'a pas tellement confiance de rentrer parce que. Ouais.
Est-ce que vous sortez avec des gens d'autres nationalités ou d'autres races?
Oui, bah oui, oui.
Avec des garçons?
Ouais. Oui, italien, portugais.
Et des arabes aussi?
Non, non, non.
Pourquoi pas? Pour une fille, qu'est-ce que ça a de différent de sortir avec un portugais et avec un arabe?
Bah, je sais pas, mais... Je sais pas, on sympathise pas tellement avec eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là le week-end, alors on a nos copains d'enfance. C'est-à-dire quand on était à l'école avec eux, et puis on va pas plus loin. On ne cherche pas tellement à rencontrer les autres garçons.
Ouais. Copains, on leur parle, mais sans plus.
Vous pensez qu'il y en a trop ici?
Oui, il y en a quand même pas mal.
Oui. Ah.
Est-ce que vous marieriez avec un Portugais ou un Italien?
Ouais, je ne sais pas.
Un Italien ou un Portugais, oui.
Et avec un Arabe?
Non.
C'est presque du racisme, ça, non?
Non, mais...
Dans un sens.
Ouais, dans un sens, oui.
C'est dû à quoi, d'après vous, le racisme?
Ben... C'est comme ça, hein.
D'abord, nos parents non plus, et je pense pas qu'ils voudraient qu'on se ramène avec un Algérien.
C'est une question de tradition?
Ben oui, moi je pense que c'est une question de
tradition. Et ça vous semble bien, cet état de fait, ou non? Il faudrait que ça change un petit peu? Annie?
Non, non, moi je pense que c'est pas bien. Bon, bah, d'accord, ils n'ont pas la même nationalité que nous, mais ils sont peut-être pas plus mauvais que nous, dans un fond. Ça, c'est une mentalité, hein, de toute façon. On y est, puis on la gardera. Moi, je pense que maintenant, c'est trop tard pour que j'échange.
Mais ici, vous n'avez pas d'amis arabes, peut-on dire?
Non. Je crois que c'est pas possible. Ce n'est pas la même mentalité que nous, de toute manière, et ce n'est pas la même place. Hein. C'est pas que je parle plus, non, loin de là, hein. Mais ils n'ont pas les mêmes réactions que dans les villes. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont de meilleures familles? Est-ce que... Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce ne sont pas les mêmes. Hein.
Dans quelles conditions est-ce que l'on peut bien s'entendre? Alors, est-ce que vous pouvez bien vous entendre avec un arabe ou des arabes?
Eh bien, pour mon point de vue, pour m'entendre avec des arabes, il faut qu'on soit plus fort qu'eux. Parce que si l'on faiblit, si l'on se met à égalité... Eh bien, ils vous passent dessus, ils vous dominent, hein, on ne peut plus les tenir.
C'est ton avis aussi, Pascal?
Ben oui.
Ils se croient toujours plus forts que nous.
C'est eux qui font le raciste, finalement.
C'est eux, c'est vrai. Ils
le cherchent, c'est eux. C'est eux, oui.
Vous vous êtes inquiétée au sujet de votre fille à certains moments?
Oui, parce que, comme je vous disais, nous avons tellement des Arabes peu scrupuleux, finalement, qu'on tremble pour nos filles quand elles partent au cinéma le soir. C'est ça que j'ai peur, vous voyez. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas assez évolué, ils sont... Moi, ils me rassurent pas. Hein. Et malgré tout, moi-même, si je passe, il faut pas que je les regarde. Parce que si j'ai le malheur de les regarder, ça y est, ils y croient déjà. Ils se croient déjà, ils se voient.
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui? Par quoi?
Par quoi? Il y a déjà 10 millions. Hein? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je, la Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbocas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a sali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du hlel à la cantine. La charba dans la cuisine, des hijabs à la piscine. Et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accro à la. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière, reprend à Doliprane. C'est de la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait Aimé Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Ils voulaient du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme. Servi avec un thé à la menthe, des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes. Bien dociles pour amasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Tu croyais qu'on allait dire merci? Merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un blé, oui oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique. Merci, merci. Le métissage, le brassage des cultures.
À la recherche du groove perdu. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on est ensemble et on cause immigration. Et à travers ce thème, celui de l'identité nationale et de la peur de l'étranger. À la fin de la guerre civile algérienne en 1962, un important flux d'Algériens arrive en France. Ils sont 350 000 à venir. Ils viennent compléter la première vague qui a eu lieu dans les années 20, notamment des Kabyles. Les Marocains, eux, sont là depuis 1910, mais viennent plus massivement depuis 1975. En 2008, ils constituaient la deuxième communauté d'immigrés en France derrière les Algériens. Pour les Tunisiens, la situation est à peu près identique. Cette immigration demeure une migration économique. On a parfois été les chercher dans leur pays d'origine pour faire face aux besoins de main-d'œuvre. Ces hommes sont arrivés le plus souvent seuls et étaient logés dans des foyers Sonacotra. Ils occupaient les emplois les plus pénibles et les moins rémunérateurs, principalement dans le BTP, la métallurgie ou chez les constructeurs d'automobiles, comme de ce prochain extrait de journal télévisé qui date du 29 novembre 1985. C'est parti.
Madame, alors grande dame, t'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame, alors grande dame.
Troisième et dernier volet de notre dossier sur l'immigration en France. Après la coexistence sur les lieux de résidence, l'école, ce soir, le monde du travail. Dans les années d'expansion économique en France, ils sont venus, appelés par millions, pour occuper des emplois non qualifiés. C'est dans l'automobile que le phénomène est le plus important. La majorité des OS, ce sont bien sûr des immigrés. Aujourd'hui, les robots prennent leur place et on leur propose l'aide au retour. Mais ce n'est pas aussi simple, car si leur industrie a changé, eux aussi. Reportage de Pierre Métivet et Pierre Issot-Sergent.
Nous ne franchirons pas les murs de l'usine. Accès refusé aux caméras. Les constructeurs ne veulent plus mêler leur image de marque au problème des immigrés. Pourtant, ces derniers ont participé à la saga de l'automobile. Souvent, on est allé les chercher chez eux. Un exemple parmi ces hommes, Ali Essioui, 48 ans, tunisien. 16 années chez Renault, 12 autres auparavant chez Simca, devenu Talbot. Il se souvient de son embauche.
Salut Magnette. Salut.
Je suis embauché ici en 1957 et par là j'ai connu pas mal de populations d'immigrés qui sont passées. Il y avait au départ les Italiens et puis après il y avait eu une population maghrébine. Et on leur avait bien expliqué qu'il fallait venir en France, qu'ils vont venir en France pour travailler. Et ce n'était pas pour une période déterminée, c'était pour travailler et vivre. Leur embauche, elle a été faite dans les pays d'origine.
Critères d'embauche, la force physique, emploi, OS. Aujourd'hui, l'industrie automobile remplace les OS par des robots. Que faire des immigrés qui ont tous 10 ou 15 ans de maison derrière eux? Beaucoup n'ont jamais connu l'école, il y a l'obstacle de la langue, mais surtout, ils n'ont jamais bénéficié de formation.
La majorité, ils sont tous en poste déqualifié. Et puis, il n'y a aucune formation de fait là-dessus. On forme un gars à partir du moment où il tient un poste. Une fois qu'il a tenu un poste, ça n'en finit plus. C'est fini, ça s'arrête là. Et il va rester là jusqu'à la retraite.
Pas si sûr de travailler jusqu'à la retraite dans l'automobile. Il faudra peut-être chercher ailleurs. Et l'expérience de Talbot ou de Citroën, où la majorité des licenciés est restée au chômage, montre qu'une formation donnée en catastrophe ne résout pas le problème.
Il y en a qui ont 20 ans qu'on était embauchés ici. Pourquoi on ne les a pas formés pendant tout ce temps-là? Ils ont resté jusqu'à l'âge de 40 ans, et d'autres qui ont 45 ans, on les envoie à la formation professionnelle, mais après, quand ils ont un métier à l'âge de 45 ans, qui va les embaucher?
On forme des gens sur les chaînes, à monter un phare, à monter ceci. C'est pas une formation. Là, mais dès que vous partez de la chaîne, à l'extérieur, vous avez rien, vous avez pas de diplôme, rien du tout.
Reste l'autre solution, l'aide au retour. Beaucoup d'immigrés jugent cette proposition irréaliste, voire inacceptable. Elle les considère, disent-ils, comme des gens de passage, en éternel transit, et non pas comme des travailleurs à part entière.
Le maghrébin, on l'a amené pour serrer le boulon, pour produire et repartir. Et cette image, il nous est impossible de l'enlever dans la tête des gens.
Chez Renault, par exemple, très peu choisissent l'aide au retour. Seuls les plus jeunes, ceux qui ont un projet dans leur pays, ou encore ceux qui sont inquiets du climat actuel.
Avec tout le bruit, les campagnes et toutes choses qui passent en France actuellement, j'ai envie de rentrer mon pays parce que j'ai un pays, j'ai venu ici à l'âge de 18 ans et j'aimerais rentrer dans mon pays et rester vivre là-bas et respirer comme tout le monde.
Les autres, la majorité, choisissent, comme Ali, de rester. Leur réticence à partir, on la comprend mieux lorsqu'on va les voir chez eux, en famille.
C'est-à-dire le retour, je le pense, j'ai toujours pensé, quand je suis arrivé le premier jour, là je pensais rester quelques mois et puis retourner, et puis je me suis trouvé dans le travail, et puis j'ai dit c'est plus la peine de penser à ça, mais non, la vie est là. Et 48 ans, j'ai plus le choix, hein. À 48 ans, je ne peux plus faire une nouvelle vie, commencer à faire une nouvelle vie chez moi. Il faut d'abord commencer à chercher le travail, il faut d'abord commencer à chercher le logement.
Moi, je veux bien entrer, même les enfants, ils sont contents quand on parle de ça. Ouais. Mais la vie, c'est ici.
En France, la population active comprend 1,5 million de travailleurs étrangers. Parmi ceux qui ont dû quitter les usines, seuls 20 000 d'entre eux ont choisi cette année l'aide au retour.
Issus de l'exil, une constante si fragile, faut qu'on avance car demain peut-être tout se dessinera dans nos têtes. On leur doit le respect,
tu le sais,
pour ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait.
Ok,
maintenant à nous de leur prouver,
yeah, yeah,
par nos efforts, notre volonté. Fiers du nôtre et de celui des autres, fiers de nos pères et de ce qu'ils ont bâti, fiers du nôtre, une pierre après l'autre, ceux qui nous laissent nous aider, nous construire. Fiers de l'être, faut-il que l'on se répète, nous sommes des enfants issus de l'exil. Mon mal-être s'est transformé, je vous le souhaite, car mes racines sont ma fausse aujourd'hui. Je me tourne dans le passé et comprendre, analyser, dans ma tête, ça fait aïe aïe aïe. Qui suis-je, vous le savez, origine contrôlée. La question me fait mal, mal, mal. La réponse à mes tourments, là je te laisse, viens, on avance. Peu importe ce qui se passe. Tout naturellement, on est français immigrants à travers l'espace.
Mais nous sommes tous semblables.
All night.
Déracinés, parfois instables. Le mélange devenu normal.
All night.
Et nos cultures indissociables. Mais nous devons être de taille pour eux, aucun monument, aucun mémorial.
Non, non.
L'histoire reste impitoyable. Rappelons leur mémoire, cela nous sera vital.
Fier du nôtre et de celui des autres. Fier de nos pères et de ce qu'ils ont bâti. Fier du nôtre, une pierre après l'autre. Ce qu'ils nous laissent nous aider, nous construire. Fier de l'être, faut-il que l'on se répète. Nous sommes des enfants issus de l'exil. Mon mal-être s'est transformé, je vous le souhaite. Car mes racines sont ma force aujourd'hui.
Yeah. Listen, tant de chemins parcourus par nos parents pour qu'aujourd'hui nous soyons là.
Yeah.
Car ils se sont toujours battus depuis longtemps, seule la survie guide les choix.
I say.
Tant de rois et de reines devenus ouvriers à l'usine, dans les mines, rien de familier. Pour mieux vivre sans le renier. Car nos destins s'éparpillent de nos lignées. Toujours vrais combattants, de vrais guerriers. Tous les jours travaillant la langue à manier. De la sueur, du sang, on reste héritier. Pour la force et leur culture, les remercier.
Déterminés comme personne, on quitte le sol. Pas toujours de manière évidente. Toujours prêt à fouiller le sol, forcément seul, à rechercher ce qui leur manque. Oui, quoi qu'on en dise, ils font partie de l'hexagone. Oui, quoi qu'on en dise, on fait de nous ce que nous sommes, enfants de l'exil. Une constante si fragile. Faut qu'on avance car demain peut-être tout se dessinera dans nos têtes. I say
Dab
Singing oh.
Naître et construire ici, nous avons grandi là.
Singing oh.
Retrouver nos racines, tout vient de là-bas.
Singing oh.
Qu'à savoir d'où l'on vient, nous dira où l'on va.
Singing oh, I say, enfant de l'exil.
C'était Dub Inc. en live acoustique à Mexico. Le morceau s'appelle Exil. La France, un pays d'accueil qui s'est donc construit avec l'immigration depuis le milieu du 19e siècle, n'en déplaise à tous ceux qui nous rabâchent les oreilles avec l'identité nationale, la perte de la grandeur de la France, le péril musulman, le grand remplacement. Ces gens-là, vous les connaissez, ils passent assez à la téloche ou à la radio. Les Zemmour, Finkielkraut, Dupont-Aignan et compagnie, cette nouvelle droite qu'on peut appeler réactionnaire, conservatrice, se désole du désintérêt des Français pour l'Église catholique, fustige la mixité culturelle, adore Napoléon et d'une manière générale la gloire de notre passé militaire et colonial. Ces droites-là, proches des idées du Front National, vous pouvez l'écouter tous les jours sur Radio Courtoisie, une radio associative comme les nôtres, basée à Neuilly-sur-Seine, fief de Sarko, et d'une bourgeoisie bien propre sur elle qui en a marre d'être complexée, d'avoir du pognon et d'avoir une certaine idée de la France. Si vous tombez dessus par hasard en région parisienne ou en Normandie, il faut absolument l'écouter. Radio Courtoisie se décrit comme la seule radio libre, la radio du pays réel et de la francophonie, de toutes les droites et de tous les talents. Voilà, vous êtes prévenus. La ligne éditoriale est en effet très à droite avec des cours d'histoire, notamment faits par des historiens qui ont peu voix au chapitre, il est vrai, dans les médias traditionnels, comme le fameux Bernard Lugan, un historien qui vous raconte l'histoire, celle qui était en vogue à l'époque de Tintin au Congo et des chansons à la gloire du colonialisme. Vous pouvez aussi écouter de la musique sur Radio Courtoisie, mais uniquement de la chanson française et francophone. Pas de musique nègre au programme. La musique nègre, c'est le terme qu'utilise le président de Radio Courtoisie. En tout cas, il l'était en 2017. Ce mec, Henri de Lesquin, c'est comme ça qu'il appelle la black music, la musique nègre. Ça vous donne un peu le ton de ce que vous allez entendre dans le prochain extrait. Ce monsieur très courtois s'est présenté pour les présidentielles de 2017. Il n'a pas obtenu ses 500 signatures. Mais vous allez entendre pendant quelques minutes son programme où il est question notamment de ré-immigration. Il est interviewé par un certain Lucien Jean-Baptiste. On écoutera après un peu de musique nègre avec Tikenja Fakoli pour faire plaisir à Monsieur Delesquin. C'est parti. Radio Courtoisie, c'est son président. C'est parti.
Bonjour, Lucien Jean-Baptiste, enchanté. Je suis avec la petite équipe. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, moi, je suis très, très content de vous rencontrer parce que j'aime bien suivre...
C'est pour qui est vrai, ouais.
Dans votre programme, je vous cite, vous voulez bannir la musique nègre.
Je veux simplement que qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre.
Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre ?
La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes.
Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement.
Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel.
Hein, c'est formidable. Non, mais vous savez, moi, je suis un candide, j'essaie de comprendre. Non, c'est vrai, très sincèrement.
C'est vrai.
Vous prônez, dans votre programme, le racisme positif, oui, sans haine. Ça. Qu'est-ce que c'est ?
Quand on parle de racisme, on pense à la haine. Bon. Et moi, la haine est un sentiment que j'ignore. Seulement, il y a un autre aspect des choses, qui est la conscience raciale, la conscience de race. Ça, c'est le racisme positif. Et qui consiste à d'abord à constater qu'on est de la même race que quelqu'un d'autre. Mmh. Et ce ne sont pas les Noirs qui vont me reprocher cela, parce que la conscience de race est très forte chez les Noirs, et vous le savez mieux que moi. Elle est très forte chez les Noirs.
Chez les Noirs, peut-être, moi, je ne sais pas. Non, mais,
bon, écoutez, ne soyez pas de mauvaise foi. Elle est très forte.
Très sincèrement, moi, je ne m'inscris pas en tant que Noir. Je ne suis pas né en me disant « je suis Noir ». Ça, c'est vraiment, je vous le dis,
avec
toute la plus grande des sincérités.
Je suis né en disant que j'étais français, voilà. mais pas en disant que j'étais...
Donc, la notion que moi, j'essaye de mettre en avant ma race ou des choses comme ça, c'est... J'ai grandi...
Vous savez très bien que beaucoup de personnes de race congoïde, des Noirs, si vous préférez, pour parler plus simplement, ont une conscience de race très aiguë, ce qui, en soi, ne me gêne pas. Sauf quand lorsqu'elle se transforme en haine à l'égard des Blancs.
Vous avez fait un peu votre test ADN, tout ça ? Et vous êtes quoi ?
Pas de sang congoïde,
rien. Et ni autre, rien du tout. Non. Et vous êtes de quelle région ? Bretagne ?
Bretagne, mais avec des origines espagnoles. En passant par l'Amérique latine, donc non.
Ah oui.
J'ai une grand-mère qui était de nationalité guatémaltèque.
Ah d'accord, donc votre grand-mère, parce que moi, mes grands-parents, moi, ils sont français.
Ah oui ?
Ah oui.
Français veut dire français de souche.
Français ? Ils sont français.
Non, mais français
d'Afrique. Les Antilles.
Alors moi, vous êtes plutôt, pour moi, un Martiniquais, avant d'être un congoïde.
D'accord.
Et en plus, je pense que vous n'êtes pas congoïde, que vous êtes un mélange de congoïde et de caucasoïde.
Je suis noir.
À mon avis, vous êtes un mélange.
Si je me mets à côté de M. Delesquin, on voit bien que je suis noir.
Ben, oui, mais vous êtes un mélange. Vous avez une moitié de semblant.
Vous allez être embêté pour trouver, parce que...
Vous avez une moitié de semblant.
Dans votre programme, je suis particulièrement allé sur l'histoire de la réémigration, c'est ça ?
La réémigration.
Réémigration.
C'est l'immigration à l'envers. Il faut que les populations qui sont en France, mais qui ne sont pas assimilées, s'en aillent.
Alors la vérification, ça passerait par quoi ?
La Suisse a la meilleure méthode, parce qu'elle fait une enquête de voisinage. Les voisins, les relations...
Il faut bien s'entendre avec son voisin, parce que...
Les relations de travail aussi. Monsieur Tartampion travaille avec vous, est-ce que vous considérez qu'il mérite de devenir français ? Alors, c'est un honneur de devenir français.
On prend un petit gars dont les parents sont d'origine sénégalaise. Lui, il ne sait pas ce qu'est le Sénégal. Il a grandi ici. Ses seules références, c'est la République française. Il faudrait le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas.
Eh ben, il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. Je vois pas où est le problème.
Si vous dites que moi, je suis pas de race noire, j'ai plein
c'est de... Métis, mais moi, je vous garde.
Où veux-tu que j'aille?
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 T'as brûlé ma maison d'Abidjan parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné, mon papa a tant sué. Moi je suis né là. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille. Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Je suis né en bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit-on, meilleur pédigré. J'avais un beau teint tigré. Black, je suis tombé côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Moi longtemps, j'ai été pour la loi.
C'était Tikenja Fakoli et Zebda, dédicace à tous nos collègues de Radio Courtoisie. Où veux-tu que j'aille? L'immigration, thème ultra présent dans la vie politique française depuis le début des années 80, thème d'autant plus épineux depuis 2014 avec la dernière vague de réfugiés, demandeurs d'asile et autres migrants venus de pays en guerre comme la Syrie ou ceux d'Afrique subsaharienne. L'Union européenne ne sait quoi faire, en tout cas aucune décision communautaire, aucune réponse collective apportée, trop de dissensions, trop de gouvernements populistes d'extrême droite, hostiles aux migrants, les pays se renvoient la balle, ne prennent pas leurs responsabilités. Ce qui crée une catastrophe humanitaire sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a recensé en août 2018 17 000 morts ou disparus en Méditerranée depuis 2014. Malgré ces chiffres hallucinants, l'urgence humanitaire, l'histoire du pays qui est le fruit d'un métissage, malgré l'histoire même de l'humanité, puisque Homo sapiens est un nomade par définition, c'est ce qui lui a permis de peupler la Terre et de ne pas s'éteindre. Malgré ça, une bonne partie de la population française, celles qui se considèrent de souche, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de tous ces réfugiés et restent sur une position de repli identitaire, l'entre-soi salvateur face aux difficultés de toutes sortes. Dans le discours de ces gens, tout se mélange, les galères de la vie quotidienne qui sont pour eux directement liées à l'immigration, le chômage, la religion, la langue, petit florilège de conneries entendues à la télé et racontées par des gens qui la regardent trop. C'est parti.
Plus que deux panneaux électoraux. Celui du FN affiche fièrement la couleur. Côté UMP, en revanche, le logo a étrangement disparu. Profil bas du parti de la majorité. Au premier tour ici, le Front National a réalisé un score historique de 22,5%. Sa candidate se qualifie pour le second tour, se payant même le luxe de dépasser les socialistes.
Moi, je vous le dis franchement, je suis raciste. On est obligé de l'être parce qu'il y a trop d'émigrés. Il y a trop d'émigrés qui ne travaillent pas et qui y arrivent mieux que nous. Ils ont des secours et tout ça qu'on n'a pas nous.
Eh ben, les problèmes soulevés par l'immigration, je trouve qu'ils ont souvent raison parce qu'on ne fait pas grand-chose et on est quand même nettement envahis.
J'ai été élevée dans une famille en fait Front National à la base.
Depuis toute petite, il y a mes parents qui font de la politique et tout, donc bon, je suis un peu habituée.
Donc du coup, j'ai beaucoup écouté les discours, je me suis beaucoup intéressée à la politique, tout ça.
Je vois aussi aujourd'hui que le gouvernement ne sait plus quoi faire
pour taper sur la tête des Français.
Gros sceptique.
Je vois la délinquance, excusez-moi l'expression, je vois aussi l'immigration.
Quand François Hollande il laisse faire tous les étrangers faire ce qu'ils veulent et aux Français il les laisse un peu dans la merde. Quoi.
Quand on voit que la dette a explosé et que l'immigration c'est 200 000 immigrés qui rentrent chaque année légalement.
À vrai dire on a eu pas mal de problèmes avec
Comme beaucoup de Français en 2004, j'ai entendu le discours de Nicolas Sarkozy sur les banlieues.
On a eu pas mal de problèmes avec les musulmans en fait.
Monsieur Sarkozy a promis qu'il allait passer un coup de Karcher. Or, il ne l'a pas fait.
Son père s'est fait
à côté d'une cité à la Seine.
Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit ça suffit quoi, stop.
Dans le cortège, les jeunes clament sans complexe le rejet de l'étranger.
On est chez nous, on est chez nous.
La France française, les biens rouges, la France française.
Faut se réveiller, bordel. Faut donner le boulot pour nous, les Français. Voilà. Après, les sans-papiers, ils n'ont rien à faire ici, je suis désolé.
Et arrêtez de faire rentrer des plein d'immigrés en France.
Aujourd'hui, le Français, on le punit. On le punit trop pour ce qu'il a fait, quoi. Voilà, on va considérer sur d'autres personnes, on va rien leur dire. C'est pas normal, ça, c'est pas de la justice. Ça. Il faut que ça change. Et Marine est là pour changer ce système.
Ça pense trop à rien. Souvent ça le front national. Et c'est pour ça que je m'en méfie. Faut être borne comme un Jean-Marie. Avoir un cerveau d'acarien. Pour rendre du chip érotical. La blonde à s'idéologie.
Qu'il y a des problèmes d'immigration en France.
Bien sûr. Ah bah il faudrait un petit peu dégager.
Tout à l'heure on va rejoindre l'équipe à 13h30.
Depuis leur rencontre, Kevin et Cassandra ne se quittent plus, pas encore installés ensemble, mais déjà engagés tous les deux au Front National. À tour de rôle, ils se retrouvent chez leurs parents. Cassandra, 17 ans, pour réviser ses cours d'éleveur de chiens par correspondance. Kevin, 20 ans, pour préparer les derniers tracts de sa candidate.
Bah là, c'est sur l'explosion des cambriolages en France. C'est comme quoi que Nicolas Sarkozy abandonne les Français, les propositions de Marine, quoi. pour résoudre ça, quoi, quand t'as des vacances.
Et moi, je suis pas d'accord. Hein. Pourquoi que vous me mettez sur FM?
On est du Front National, mais on remplace parce que les affiches, elles ont été arrachées.
Ah bon, alors je dis rien.
Bah, vous pouvez regarder, c'est les flammes, tout.
Ouais, ouais.
Alors, c'est nous qui les collons, ces affiches-là, ouais, ouais. Régulièrement, mais c'est, on nous les arrache. Donc.
Mais un petit peu, parce qu'il en faudrait, parce qu'il y a trop d'étrangers en France.
Troisième question, Rafale. Quand on va aux manifestations FN, on tend le micro et parfois, on entend ça.
On est trop nombreux,
oui.
on se demande si on est en France ou je ne sais pas où.
Voilà.
Il y a trop d'immigrés, ils ne servent à rien. On n'en a pas besoin.
Les immigrés, voilà.
Moi, contribuable, j'ai pas envie d'entretenir un parasite.
Sarkozy et comment il s'appelle
Hollande.
Hollande, c'est à mettre dans le même sac des gros parpaings et à foutre au milieu de la Seine. Ils sont plus beaux à rien.
Mais il y a aussi ce genre de réflexion. C'était à Saint-Raphaël, mi-janvier, votre père faisait un banquet avec des cadres du parti. Aimez-vous ce genre de vanne?
Oui, 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 qui signe un petit peu méchante.
C'est quoi l'étranger pour vous? Et quel est l'étranger qui vous fait peur finalement?
Je crois que l'étranger, l'étranger qui me fait peur, soit les Arabes, beaucoup, les Arabes.
Et qu'est-ce qu'ils vous font peur?
Et soi-disant, ils sont français.
Bah oui, il y en a, enfin, très honnêtement, il y a une bonne partie des gens qui sont Arabes qui sont français.
Mais je crois qu'on doit garder sa nationalité. Moi, je suis français, je serai jamais chinois ou arabe. Pour moi, même un Arabe, il doit rester Arabe, nationalité Arabe, même s'il habite en France. On ne change pas sa mère. On ne change pas sa mère.
Vous voulez bien boire un coup avec moi quand même, non?
Une confusion entre nationalité, langue, culture et des propos qui mettent mal à l'aise Franck Briffaut. Il tente de mettre fin à l'interview.
Ça vous pose un problème? Ah
ben
ça pose un problème.
Allez, ils vont tomber dans un piège tout à l'heure, vous ne sentez pas venir. Oh, mais pas fûter, il va absolument.
Le FN voudrait faire oublier cette image qui lui colle à la flamme.
C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les moments comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis.
Voilà pour cette émission, vous pouvez podcaster sur le site internet de RDWA. La semaine prochaine, on continue notre cycle musique et politique avec une tradition qui se perd depuis quelques décennies, à savoir l'éloge des présidents, hommes forts et autres dirigeants de nos pays. On évoquera Valéry Giscard d'Estaing dans son habit de superstar, Papa de Gaulle, Jean Bedel Bokassa ou encore Fidel Castro. Il sera question de France-Afrique, de mégalomanie, de naïveté, d'angélisme à travers une sélection musicale qui passera par le Sega, la Begin, la Soukousse, le Ska, le son cubain, vous savez tout. À la semaine prochaine pour la suite de l'histoire, c'était À la recherche du groove perdu. Et je vous laisse pour clore cette émission avec Zebda, Le bruit et l'odeur. À la semaine prochaine, ciao.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur,
je me présente, voici.
Je m'appelle Larry Mamadou Juan et faites place Guido Henri Gino Ali. Je ne suis pas de glace, une voix m'a dit marathon. Cherche la lumière du gouffre, j'ai épuisé un combat. La bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux.
fois j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites. Alors
le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.